voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. Ce soir, scène de nuit, les années cabaret.
Marie-Pierre Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons aujourd'hui après avoir évoqué hier, lundi, votre enfance en Algérie, la scène, disons, familiale, votre parcours comme à l'école, au collège, au lycée, ce rapport, disons, de rejet, ce rapport négatif, non seulement à ce prénom, mais au sexe qu'il désigne, le sentiment d'être une femme, qui va s'exacerber, disiez-vous, à l'adolescence, à 15, 16, 17 ans, puisque c'est à 17 ans, donc en 1953, que vous partez, sur la base d'un mensonge, pour Paris, pour tenter d'entrer au Carrousel. Nous nous sommes arrêtés sur ce point, puisque, n'étant pas majeur, vous devez retourner en Algérie, qui est encore française, donc retourner à Isère, pour obtenir de votre mère l'autorisation à la majorité de repartir à Paris. C'est ça ?
Oui, il s'agissait d'une émancipation en bonne et due forme qu'elle m'a donnée à 18 ans et je suis retournée à Paris. Oui, alors quand ma mère m'a fait rentrer au début de l'année 1953, je devais quitter donc en fin d'année 1953, dès que j'ai eu 18 ans. Alors, avec ma mère, il y a eu des explications qui n'en ont pas été. Parce que je disais, voilà la vie que je veux mener. Est-ce que c'est possible de la vivre ici? Non seulement aux Isères, ou à Bourges-Ménayel, mais en plus, même à Alger, est-ce que c'est possible? Elle est convenue de cette chose évidente, c'est que c'était impossible. À cette époque-là, c'était impossible. Et donc, il n'y avait qu'à aller à Paris. Et je lui ai dit que j'avais contacté donc, le patron du Carrousel, que j'avais un travail assuré. Et qu'elle ne risquait rien, et que si elle me comprenait, moi aussi je la laisserais jamais, et qu'elle viendrait vivre à Paris avec moi dès que ce serait possible, etc. M'a-t-elle cru, ne m'a-t-elle pas cru, je ne sais pas, en tout cas, elle m'a donné la liberté de faire comme je l'entendais, et je l'ai fait. Donc j'ai eu mon émancipation, je suis allée à Paris, je suis allée me représenter au patron, qui m'a dit, bon, tu vas aller chez Madame Arthur, tu verras Madame Germaine, c'est ma femme, elle, c'est la patronne, et voilà, tu lui diras, voilà.
Vous arrivez à Paris, vous avez des contacts, vous avez un pied-à-terre, comment ça se passe?
Ah non, non, je...
Une fille de 18 ans, ça
à 18 ans, ben j'arrive à Paris, et je demande au taxi qui m'amène près de la rue des Martyrs. Je ne sais pas que la rue des Martyrs est si longue, aussi grande. Et il m'amène rue Victor Massé, je crois, dans un hôtel. Je reste 8 jours. Et je cherche un hôtel encore plus proche. Je vais rue André Gilles, à l'hôtel André Gilles, qui est en face de chez Madame Arthur. Donc j'y suis très bien. Et là, j'y suis resté longtemps.
Donc vous entrez chez Madame Arthur.
Non.
Et alors, qu'est-ce que c'est Madame Arthur à l'époque? Qu'est-ce que ça représente?
Madame Arthur, c'est un cabaret extrêmement couru. Et c'est un cabaret de travestis, ce sont des garçons qui s'habillent en femmes, qui font soit du charme, soit du comique. Et il y a deux animateurs, il y a d'abord l'animateur qui s'appelle Maslova, qui est en pyjama rose, qui fait un peu la folle, beaucoup d'autodérision, qui a un succès énorme, et son compère, qu'on appelle Loulou. Et il mène le spectacle tambour battant, et c'est un spectacle qui commence à 11h du soir à peu près, et qui finit à 5h du matin. La salle se renouvelle dans la soirée au fur et à mesure, et il y a tant et tant de monde qui vient ici pour s'amuser, pour rire, c'est un cabaret montmartrois. Et il y a la queue de chez Madame Arthur jusqu'au boulevard de Clichy, tous les jours pratiquement, ce qui m'étonne énormément, car j'avais jamais pensé qu'on puisse sortir au spectacle un autre jour que le samedi soir ou dimanche après-midi. Et là, je vois qu'à Paris, c'est tous les soirs qu'on sort. Je suis très étonné. Et donc, moi, je chante une chanson vers 11h30 et une autre chanson vers 4h30 du matin. Et le restant, je reste dans la loge en train d'attendre, de regarder, d'écouter ce qui se dit, de m'amuser. Voilà, c'est ma vie. Je me couche à 7h du matin et je me lève à 7h du soir.
C'est la belle vie.
C'est une vie toute différente, mais enfin, il faut s'y adapter. J'ai très froid. Il fait un froid terrible. L'hôtel est bien, mais assez mal chauffé. Il y a deux moments de chauffe, c'est le matin vers 7 à 8, c'est un peu chauffé, et le soir vers 6h30, 7h, il recommence un peu à chauffer. Quant à l'eau chaude pour faire sa toilette, c'est pareil, il y en a un peu à 7h du matin, un peu à 10h du soir, et c'est tout. Il faut profiter de faire sa toilette dans ces moments-là, autrement il faut se laver à l'eau froide, l'eau très froide à Paris en hiver.
Et alors là, vous vous sentez dans votre univers, justement.
Ah oui, 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 je suis dans mon univers, c'est-à-dire que j'apprends à me maquiller pour la scène. C'est la patronne elle-même qui me prend en main et qui m'apprend à me maquiller pour la scène, parce que j'ai l'habitude, dans le peu que je me suis maquillée, c'est de faire un maquillage très léger et presque invisible, quoi. Alors la patronne me dit, mais c'est pas du tout comme ça qu'on se maquille, mais regarde les autres, moi je veux pas ressembler aux autres. Et donc elle m'apprend à me maquiller, mais je me mets à aimer ces maquillages-là. J'aime ce maquillage, j'aime cette outrance du maquillage en scène, enfin, quand même une outrance relative, parce qu'il faut qu'elle fasse relativement naturelle, vue par le spectateur. Mais à mes yeux, quand on se maquille, et qu'on met des faux cils, et qu'on dessine ses sourcils, et qu'on dessine sa bouche avec un crayon, etc., tout ça me paraît extravagant. Mais j'apprends à le faire, et j'adore le faire. J'ai toujours aimé ces maquillages-là, pendant les 20 années que j'ai fait au Carousel, au spectacle. J'ai aimé ce maquillage-là, oui.
Et les costumes?
Ah, les costumes, je dis rien, naturellement, au départ. Il y a un atelier de couture au-dessus de chez Madame Arthur. Et ce sont des robes qu'on me prête, que l'atelier de couture met à ma disposition.
Mais alors, cette situation vous plaît, vous adorez ça, vous pouvez enfin, en tout cas, vous parer de la féminité dans laquelle vous ressentez
oui,
vous-même.
Ça me convient, ça me libère.
Ouais. Est-ce que ça se vit facilement avec les autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec l'environnement de chez Madame Arthur?
Oui, non, je m'y sens tout de suite bien chez Madame Arthur. Naturellement, il y a un moment d'adaptation, mais je m'y sens tout de suite bien. J'ai ma place dans la loge, je me maquille, j'ai beaucoup de succès. Je suis très applaudi, etc. Donc ça flatte mon égo, comme dit l'autre, et je vis. Je vis, je me sens m'épanouir, j'écris à ma mère, j'écris à ma grand-mère qui est à l'hôpital. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent, mais enfin ma mère m'écrit beaucoup, ma grand-mère m'écrit un peu moins, mais elle m'écrit quand même. Et donc ça va.
Est-ce qu'il y a des références? Je veux dire, est-ce que dans cette situation-là, ça a du sens de s'interroger sur ce qui fait une femme, ce à quoi elle ressemble une femme? Se maquiller comme, s'habiller comme, c'est s'habiller comme qui? À l'époque, en 53 ou en 54?
Non, c'est se maquiller, tout simplement. D'accord. C'est pas s'habiller comme ou ressembler à quelque chose. Non. C'est se maquiller et sortir, et j'attends avec impatience d'avoir économisé quelque chose pour avoir autre chose que mes pantalons de garçon, parce que j'ai des pantalons de garçon, et je n'ai rien à me mettre pour sortir. Aussi, je ne sors pas du tout. Je vais sortir, je vais chez la répétitrice, travailler un petit peu mes chansons, et c'est tout, autrement je reste enfermé. Et je ne commence à sortir que quand le temps s'améliore un peu, et que quelques mois sont déjà passés. Alors là, je peux enfin sortir. Vous savez, à cette époque-là, les femmes ne sortent pas en pantalon. Une femme qui sort en pantalon à cette époque-là se fait remarquer. Alors moi, déjà, avec mes pantalons de garçon, je n'ai pas du tout envie de me faire remarquer. Et j'attends le moment où je pourrai sortir sans être vue, où je passe comme quelqu'un un personnage ordinaire, une femme ordinaire. Voilà ce que je veux être.
Donc une femme ordinaire le jour et
du spectacle.
Une figure du spectacle la nuit.
Oui, une figure du spectacle, je commence, j'ai du succès, mais je commence à être un petit peu connu et à m'appeler Bambi que plus tard, une fois que je suis au Carrousel, c'est-à-dire l'année suivante.
Vous entrez au Carrousel en septembre 54. Et alors, quelle est la différence justement entre Madame Arthur et le Carrousel à ce moment-là?
Il y a une grande différence entre Madame Arthur et le Carrousel. C'est-à-dire que Madame Arthur est un cabaret Montmartrois où on s'amuse. On sent un peu une atmosphère d'après-guerre. Ça, je l'ai perçu bien des années plus tard, parce que je voulais m'expliquer pourquoi ça en avait tant de succès. Ben, c'est qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien d'autre. On s'amusait beaucoup chez Madame Arthur, et c'était plein tous les jours. C'était des petits commerçants, des petits artisans et commerçants qui venaient, voilà, la clientèle. Mais à part au bar, ce n'était pas une clientèle homosexuelle, pas du tout. Et au Carrousel, pareil, c'était pas une clientèle homosexuelle, mais c'était une clientèle bourgeoise, pincée, et qui applaudissait à peu près du bout des doigts, quoi, disons. Mais ça n'empêchait pas qu'on ait son succès, parce qu'on reconnaît l'intensité des applaudissements. Et c'est pas seulement à ça qu'on connaît le succès qu'on fait. C'est aussi au silence qui s'établit quand on entre en scène. Ça, c'est très, très fort. Et ça se retrouve partout, dans l'enseignement aussi, d'ailleurs. Hein, quand on entre, et on voit bien tout de suite, les élèves nous sont jugés immédiatement.
Comment vous perceviez justement ce regard qui était porté sur vous en tant que femme, quand bien même c'était en tant que travestie, mais femme pour vous,
ouais. Je ne sais pas comment on peut dire je percevais. Non, j'ai toujours trouvé les regards sur moi bienveillants dans la mesure où, chez Madame Arthur, et même au Carrousel, où il y avait des gens qui n'avaient jamais rien vu de semblable, dire ah, non, ça c'est pas possible, alors ça m'allait. Voilà.
Je vous pose la question parce qu'on est dans un contexte où ça... Enfin, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'a pas lieu d'exister, ça ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui interdisent aux femmes de s'habiller en homme ou aux hommes de s'habiller en femme. Je veux dire, être homosexuel est un délit grave. Donc, est-ce que finalement, ça n'était pas viable, ou en tout cas, vous ne pouviez le vivre que sur le mode du spectacle, de la scène, mais comment justement le viviez-vous autrement ? C'est-à-dire que, est-ce que c'était pas réducteur, ou en tout cas...
Non, c'est-à-dire, les premiers temps, je vous ai dit, je n'avais pas une seule robe à me mettre, les chaussures, et tout ça, ça coûte assez cher, même si on allait l'acheter rue de la Chaussée-d'Antin, où les choses étaient bon marché à l'époque, eh bien, il fallait attendre que je fasse quelques économies. Heureusement, le patron m'a augmenté assez rapidement, mais autrement, j'étais payé. J'avais juste de quoi payer ma chambre et mes sandwichs, hein, c'est tout. Et donc, ça s'est un peu amélioré, j'ai pu m'acheter quelques affaires, mais j'ai commencé quand même par des robes de scène, parce que je voulais avoir des robes. Vous savez, à l'atelier, on nous prêtait des robes qui avaient été mises et tout ça. Je voulais d'abord m'affirmer sur la scène, et il n'y avait que comme ça que je pourrais être tranquille à la ville. Et à la ville, ensuite, quand c'est arrivé, bon, ben, il faisait relativement beau, quoi. Vous savez ce que c'est que l'été parisien, c'est-à-dire on est sûr de rien, mais il faisait assez beau, j'avais de quoi, j'avais pas de manteau, mais je pouvais sortir. Voilà. Et alors, dehors, je me suis très vite habituée à être Madame Tout-le-Monde, à vrai dire, à la ville, et c'était ce que je recherchais. Mmh. Alors, à la scène, j'avais d'autres désirs, et naturellement, en scène, on est une autre personne. C'est un petit peu comme quand on écrit. On est une autre personne. Et voilà. Mais cette personne que j'étais en scène... Je l'étais que le temps d'une chanson ou le temps d'une petite danse, et c'est tout. Où on s'imagine qu'on est un être, quelque chose d'extrêmement précieux, qu'on fait vraiment l'aumône de sa présence au public. On est un petit peu, il y a un petit peu de cette folie-là. Mais alors à la ville, tout est retombé, puis il y a une sorte de liberté, en fait. C'est ça qui me plaisait. Bon, j'étais satisfaite, mon narcissisme était satisfait en scène, et le restant, j'en étais en quelque sorte libérée.
Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez enfin le surnom que vous auriez souhaité avoir enfant, que vous n'aviez pas, mais là, vous n'êtes plus véritablement Jean-Pierre, mais en tout cas, vous devenez Bambi pour la scène.
Ah, je deviens, oui, mais ça, c'est seulement en 1955. Donc j'entre à l'automne 54 au Carrousel, et j'ai aussi beaucoup de succès encore au Carrousel. Chose que peut-être le patron ne s'attendait pas. Toujours est-il qu'il voit mon succès, il m'appelle un beau jour et il me demande de changer de prénom, parce qu'on m'avait appelé Cathy à la scène. C'est l'habilleuse qui m'avait baptisé Cathy du prénom de sa fille, sous prétexte qu'on se ressemblait. On ne se ressemble pas du tout, la fille avait 2 ans et demi. Enfin bref, on m'avait appelé Cathy, et le patron a demandé que je trouve un nom, et ce nom je ne l'ai jamais trouvé, donc il m'a dit, le directeur artistique qui s'appelait Monsieur Lasquin, va te proposer 3 noms, je vais lui dire de te proposer 3 noms, tu en choisiras un, et ce sera pour la vie. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'ai attendu, on m'a proposé 3 noms, j'ai choisi Bambi.
Quels étaient les 2 autres ?
Les 2 autres, c'était Gazelle et Chiffon.
Et alors, qu'est-ce qui résonnait de si plaisant dans Bambi ?
Lorsque j'étais chez Madame Arthur, est arrivé un jour un garçon qui était un artiste de chez Madame Arthur et qui était dans un un hôpital pour malade des poumons, pour maladie des poumons. Et il était en convalescence. Il est venu me voir. Oh, il m'a dit, je t'admire beaucoup, etc. Et il est reparti dans son hôpital. Et quand il est revenu, il m'a fait un petit Bambi qui est toujours chez moi, il est ici. Et c'est le seul Bambi, parce qu'on m'a offert quantité de Bambi ensuite, mais c'est le seul Bambi qu'on m'ait offert avant que j'ai choisi. Il m'a dit, je te le donne, c'est un porte-bonheur. Considère-le comme un porte-bonheur. Garde-le toujours dans ta loge. Enfin, dans la loge. Et voilà, j'ai gardé ce petit Bambi. Et quand Bambi m'a été proposé dans les trois noms, j'ai choisi Bambi immédiatement, sans compter que Gazelle et Chiffon ne me convenaient pas non plus.
Donc c'est une sacrée coïncidence.
Oui.
Ouais. Et alors, c'est en tant que Bambi que vous rencontrez Coccinelle à ce moment-là, que vous aviez déjà vu donc, au casino à Alger, et que vous rencontrez là en tant que partenaire.
Coccinelle était en tournée quand j'arrive à Paris et que je commence chez Madame Arthur. Et un beau jour, elle avait une semaine de battement, elle est venue à Paris et elle est venue visiter, nous dire bonjour dans la loge. Et elle était spectatrice et j'étais très intimidée à l'idée de passer devant elle. Alors je regardais en scène, elle était devant, je regardais partout sauf elle. Et quand elle est rentrée dans la loge, elle m'a fait des compliments qui n'en finissaient plus, et elle me dit « je suis Coccinelle », elle m'a tendu la main, ça m'a fait rire comme si le loup blanc se présentait, enfin bref. Et elle me dit « oh, vous êtes splendide, en scène, une apparition ». Elle avait beaucoup d'expressions exagérées comme ça, et ça m'a plu, ça m'intimidait beaucoup parce que, bon, elle avait déjà un nom... Tout Alger avait couru la voir quand elle était passée. Et quand, à l'automne suivant, les répétitions commencent, elle ne fait pas partie des répétitions, on la fait répéter toute seule. Bref, le spectacle commence, il n'y avait que Capucine entre elle et moi. Et un beau jour, elle me dit « mais pourquoi tu viens pas chez moi ?» Elle était très parigote comme ça. « Tu viens pas chez moi après le spectacle ?» Parce qu'après le carrousel, qui finissait à 2h30, elle a doublé chez Madame Arthur, puis elle rentrait chez elle et elle prenait du camembert ou du saucisson avec du vin rouge, etc., en écoutant la musique. « Mais viens chez moi, etc., ce sera très bien. » Donc, j'y suis allé quelques fois, j'étais flatté, je dis. Et un beau jour, elle m'a dit « Non, tu sais, tu devrais quitter ton hôtel, ça te coûte trop cher, tu n'as pas de quoi t'acheter des choses, et ici, tu viens vivre avec moi, tu seras nourri et logé pendant toute la saison. » Alors, Capucine, qui était là, elle dit « mais où elle va dormir ?» Elle lui dit, elle va dormir avec moi dans le lit. Capucine lui dit, et moi alors? Elle lui dit, tu dormiras sur le canapé. Et Capucine avait un ami à l'époque, elle avait autre chose en tête, elle en a profité pour partir. Et moi j'ai vécu pendant ce temps avec Coccinelle. Et c'est pendant cette année où je vivais avec Coccinelle, où j'ai pris beaucoup d'assurance, parce que Coccinelle m'a beaucoup réveillée, je dois dire. Il fallait se lever le matin, à 2h d'après-midi, faire sa toilette rapidement, faire le ménage rapidement, prendre son café rapidement, et sortir. Et tous les jours on sortait, on allait au cinéma, on se faisait inviter, enfin bref. Et elle m'oblige à connaître Paris, je ne sais encore pas prendre le métro toute seule d'ailleurs. Et elle m'apprend toutes ces choses, et elle est fantaisiste, elle veut à un moment donné qu'on s'habille de la même façon, alors on se fait faire le même tailleur, on a les mêmes sacs, les mêmes chaussures, tu vois, me dit-elle, on va être en sister à la ville, parce qu'elle est toujours en spectacle, elle. Contrairement à moi, elle aime le spectacle même dans la vie privée. Et contrairement à moi, il y a Capucine d'ailleurs, parce que Capucine n'aime pas beaucoup non plus se manifester dans la vie privée, elle aime être discrète, on a ça en commun à cette époque-là. Mais Coccinelle n'aime pas ça, elle veut être une star un jour ou l'autre, donc elle fait tout pour ça. Parce qu'on n'a aucune publicité dans les journaux, aucune presse, tout vient du bouche à oreille, tout notre succès vient du bouche à oreille, mais les cabarets ne les emplissent pas.
À quoi ressemblait-elle Coccinelle ?
Coccinelle aimait ressembler à quelqu'un, quelque chose. Elle voulait être une star. Et donc, à cette époque où je l'ai connue, la star était Martine Carole. Et elle ressemblait trait pour trait à Martine Carole. Les gens se disaient Martine Carole dans la rue en la voyant. Et tout d'un coup, elle s'est aperçue, En revenant tourner un jour, elle s'est aperçue, elle m'a montré un article de journal où on disait « Coccinelle avec son sourire à la Marilyn Monroe ». Moi, je ne savais pas qui était Marilyn Monroe à cette époque, on était en 54. Elle aimait beaucoup faire des personnages et les vivre comme ça. Et elle a signé des autographes où elle signait « Martine C ». Alors j'ai dit « Mais tu as fait un faux ?» Elle m'a dit « Pas du tout. Martine, on m'appelle Martine quelquefois. Et c'est Coccinelle, voilà. » Bref, des choses comme ça. Et dans le train, on l'avait prise pour Brigitte Bardot une fois. Bon, elle était toute heureuse de mener cette vie-là. En scène, elle était prodigieuse. Elle était prodigieuse de beauté, de charme, de manière d'être, de savoir se présenter. Elle savait paraître énormément.
Elle vous a tout appris.
Elle ne m'a pas donné de conseils, à vrai dire, mais elle m'a appris par l'exemple. Et tellement appris par l'exemple que je me suis surprise à l'imiter en scène. Je m'en suis rendu compte et j'ai dû faire tout un travail pour me reprendre en main moi-même et ne pas devenir une coccinelle à bas prix. J'ai voulu être moi-même avant tout ça, c'était indispensable. J'étais navré quand je me suis aperçu que je prenais ses gestes et même son langage qui était particulier et je me suis entièrement reprise, oui.
Ça, vous avez dû en passer par quoi ?
Ben, je suis passé déjà par reprendre mes gestes en scène. Mon langage, ma manière de rire même, qui était atteinte parce qu'elle riait constamment, je riais aussi beaucoup, et je riais un peu comme elle, d'une manière un peu bruyante. Et tout ça, il a fallu corriger le monde. Parce qu'une fois que j'ai découvert que je faisais des gestes à elle sur scène, je surveillais le restant. Et je me suis aperçu que, bon, elle avait beaucoup d'éteint sur moi.
À ce moment-là, vous n'êtes pas encore Marie-Pierre.
Non.
À quelle période ça va, le changement d'état civil va avoir lieu ?
Oh, le changement d'état civil va... Vous savez, je commence à faire des tentatives en France, mais mon avocat me fait marcher, en réalité. J'aurais dû m'en douter, parce qu'il s'appelait Maître Le Thor. Quand on s'appelle Le Thor, naturellement, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Mais il avait fait, soi-disant, des démarches en France, et un beau jour, il me dit, mais c'était un ami. Il me dit, mais ma chérie, tu sais très bien que ça peut pas fonctionner en France, tu n'es même pas née en France. Et il me demandait des sommes, tous les 6 mois, il fallait que je verse des sommes. Alors, je pensais quand même qu'il se moquait de moi. Donc, je lui ai retiré l'affaire, et je suis allé voir à l'ambassade d'Algérie, quand il y a eu l'indépendance. Mais avant l'indépendance, j'étais très embarrassé, parce qu'il fallait m'adresser à la justice de Bourges-Ménéhiel, car c'est l'Algérie qui avait mon état civil. L'Algérie était encore officiellement française quand j'ai commencé. Et donc, c'était difficile, parce que j'avais ma famille, le frère de ma mère qui avait le café. J'avais quitté le café en pleine nuit, sans dire au revoir ni merci à qui que ce soit. Donc, on était très remontés contre moi. J'avais fait parler de moi parce que tout le monde savait que j'étais au Carrousel. J'étais retourné en tournée à la Pointe-Pescade, au Casino de la Corniche, 6 mois après mon départ. Mmh. Et donc, ça avait fait un scandale énorme. Donc, dans ces conditions, je ne pouvais rien faire à Bourges-Ménéhiel, parce que mon oncle avait un peu le bras long, je suis sûr qu'il aurait eu la possibilité d'entraver mes désirs.
Mais c'est une question qui se posait pour vous, de changer d'état civil.
Ah ben naturellement.
Bien sûr.
Ben, c'est bien sûr, c'était un impératif. C'était un impératif, déjà je me disais, il va falloir, parce que ma mère me tarabustait, et derrière elle me disait, mais enfin il faudra un jour changer de métier, la jeunesse ça passe, et la beauté. Et le succès, tout passe, il faut que tu penses à autre chose. Je lui assurais que j'y pensais, etc., etc. Mais enfin, tant que j'avais pas de changement d'état civil, il était exclu de pouvoir faire quoi que ce soit, où que ce soit, avec un physique qui ne correspondait pas à l'état civil. Ça n'aurait pas été accepté, où que ce soit, dans la société.
Est-ce que c'est auprès de Coccinelle ou d'autres personnes que vous avez pu vous engager, disons, dans ce qui va aboutir à la décision, justement, de l'opération, de la transition, de la métamorphose ?
Coccinelle et moi, nous sommes séparés. Nous avons été séparés par la direction du Carrousel. Elle pour prendre la tête d'une revue, moi pour en prendre une autre. Et quand elle était en tournée, je restais à Paris et vice-versa. Donc nous avons perdu le contact, un certain contact, Coccinelle et moi-même, si nous on s'est souvent écrit, mais nous avons perdu un certain contact. Et tout ce fait, ce qui l'a poussé vers la recherche d'un médecin, je lui faisais confiance, je savais qu'elle avait plus de possibilités que moi de poser des questions, de chercher à savoir. On était allé voir un médecin à Paris, qui s'appelait le docteur Claoué. Et le docteur Claoué avait dit, je vais m'occuper de cette opération, il va falloir que je fasse quelque chose, mais seulement elle est absolument interdite, elle est considérée comme un crime en France, il faut que je trouve des appuis politiques. Et il avait trouvé un appui en madame la présidente de la République, l'épouse du président de la République, René Coty. Et puis madame Coty est morte, comme on sait, morte rapidement. Donc le docteur Claoué n'a rien pu. Mais il s'est passé que Coccinelle a connu quelqu'un qui avait trouvé le moyen à Casablanca de trouver un médecin qui avait fait cette opération, qui l'avait tenté sur elle et réussi.
Là, nous sommes en quelle année, Marie-Pierre ?
Là, nous sommes en 1958.
D'accord. Donc, il s'ouvre une possibilité à Casablanca, au Maroc. Et on est en 1958. Écoutez, merci beaucoup Marie-Pierre Pruvot. Demain, mercredi, nous continuerons sur cette aventure du soi et de la réalisation de la femme que vous souhaitiez, que vous désiriez devenir.
On verra ça demain.
À demain, Marie-Pierre.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Clément Vuillet, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.